7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. La haine à portée de clic aujourd'hui. Internet crée des héros, mais aussi des cibles faciles qu'on dénigre à coups de tweets et de commentaires injurieux, racistes, sexistes. Comment expliquer tant de haine déversée derrière l'anonymat d'un écran à l'heure du bashing et du cyberharcèlement? Comment lutter pour détoxer les réseaux sociaux et aller vers plus de respect en ligne? Plusieurs personnalités publiques en viennent à fermer leurs comptes, Twitter, Instagram. Doit-on y voir le signe d'un échec alors que la toile promettait un débat démocratique? L'un de nos invités du jour propose un procès contre l'interne hate, anglicisme pour décrire l'internet de la haine. Philippe Cohen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, vous avez fondé l'ONG Respect Zone et vous publiez le livre Internet contre Internet, plaidoyer pour le respect. En face de vous, Thomas Huchon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le site spicy.fr et vous luttez contre le complotisme sous toutes ses formes. Vous avez même réalisé un documentaire sur le sujet « Comment nous avons piégé les complotistes ». Et Julie Owono, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez l'ONG Internet sans frontières, avec laquelle vous organisez à Yaoundé, au Cameroun, en septembre prochain, un colloque sur les droits numériques en temps d'élection au Cameroun, avec les élections présidentielles prévues en octobre dans le pays. Et vous allez notamment aborder cette question de la haine en ligne, on en parlera. Et vous, les voisins, les voisines, avez-vous déjà été la cible de critiques sur le web, ou avez-vous été choqué par des choses que vous avez lues sur les réseaux sociaux? Vous nous racontez tout ça au 33 1 84 22 71 71 ou sur WhatsApp au même numéro, je leur donne 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, comme toujours, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux. Justement, sur Facebook, Nassirou nous écrit « Je suis béninois, je vis à Abidjan et sur Facebook, j'ai reçu des injures racistes. On m'a dit que je venais voler le travail des Ivoiriens et que je ferais mieux de retourner dans mon pays. Janvier est lui à N'Djamena au Tchad. Dès que je parle de politique sur les réseaux sociaux, je reçois des propos haineux. Pour moi, il faudrait sensibiliser les jeunes au vivre ensemble sur la toile. » Et puis, je vous lis le message d'Angélique à Dakar. « S'il y a tant d'insultes sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'est anonyme. À partir du moment où on est caché, tout est permis. Moi, je fuis les réseaux sociaux pour ne pas être victime ni témoin de ces insultes et de ce déversoir de haine. Alors sur Facebook, je ne poste rien. Et quand j'y vais, j'ai l'impression de faire du voyeurisme. »
7 milliards.
7 milliards de voisins.
Le monde, oui, 7 milliards.
En ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a la fachosphère qui est très très présente et l'opinion est beaucoup plus libérée. Et donc du coup, je trouve ça très dangereux. Moi, je me souviens il y a quelques années que la journaliste Audrey Pulvar, elle avait quitté les réseaux sociaux. Et si je me rappelle bien, dans son dernier Twitter qu'elle avait posté, elle disait « Je quitte justement Twitter pour ne plus m'entendre décrite ou interviewée comme la femme d'eux, pour décourager les paparazzis collés à mes basques. » Bon, son Twitter a quand même fait réagir les internautes parce qu'il y a encore eu des moqueries par la suite, parce que pour les gens c'était un peu un non-événement, mais enfin bon. Et donc du coup, voilà, ça c'est un autre exemple, surtout qu'Audrey Pulvar c'est quand même une journaliste et je pense que les réseaux sociaux c'est un outil d'information assez important aujourd'hui.
Bah sinon là, vu qu'on est en pleine Coupe du Monde, il y a le joueur suédois, donc Jimmy Durmaz, il est turc et syrien, qui a loupé un but. Il a eu un déversement de haine sur les réseaux sociaux. Ils ont passé leur temps à lui reprocher ses origines, à l'insulter, à avoir des messages de haine contre lui, contre ses origines, en disant que c'était limite un délit national, en fait, qu'il n'ait pas réussi à marquer pour la Suède. Heureusement, l'équipe de football suédoise se sont mis derrière pour lutter avec lui contre ça. Même la présidente, je crois, ou la ministre des Sports, elle a même mis son maillot lors du Conseil des ministres pour le soutenir. Elle a appelé vraiment tous les Suédois à lutter contre ce fléau raciste, quoi. Et pour se défendre, il a dit « Être critiqué fait partie de la vie de sportif, on doit l'accepter. Je suis Suédois, je porte ce maillot, ce drapeau avec fierté. Mais qu'on me donne des noms racistes, me qualifie de terroriste et qu'on menace ma famille de mort n'est pas acceptable. »
«
paroles recueillies en région parisienne par Léa Delfolli. Alors, le sujet revient souvent, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois ni la dernière qu'on en parle dans 7 milliards de voisins. La haine, Philippe Cohen, s'est-elle intensifiée sur Internet et les réseaux sociaux ?
Bah, comme justement votre micro trottoir le dit très bien, plus on est connecté, plus on est face à un secteur qui est entièrement inflammable, enflammé. En termes de chiffres, lorsqu'on fait des études, que ce soit avec Netino par exemple, qui essaye de modérer 80% des sites de presse en français, il nous explique que 27%, c'est-à-dire plus d'un quart des commentaires sur les articles de presse et sur les vidéos, doivent être enlevés. Enlevés, ça veut dire qu'il n'y a même pas de débat. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette zone grise où il pourrait y avoir un débat. Donc ça veut dire que plus d'un quart des commentaires, c'est de la pure haine. Donc lorsqu'on entend effectivement qu'il y a des menaces de mort et qui fait très mal vivre sur les réseaux sociaux, on le comprend très bien, dans chaque pays de notre francophonie, il y a à peu près 12 suicides par an pour les adolescents qui utilisent les réseaux sociaux, parce que c'est compliqué de se déconnecter de sa communauté sociale. Donc on préfère encaisser, et parfois on n'est pas assez fort pour le faire, et ça peut conduire au pire. Donc votre question, elle est malheureusement simple à être répondue, ça va de plus en plus mal, et c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de trouver des idées créatives ensemble.
Il y a un autre chiffre tiré d'une étude de 2016, la toile compte 200 456 insultes par jour, c'est plus de 2 par seconde. Effectivement, le phénomène est vaste. Julie Ouono, vous luttez pour la liberté d'expression, mais aussi contre cette haine en ligne. Quel constat vous faites à ce sujet sur le continent africain ?
Oui, alors nous partageons d'une part le constat qui vient d'être fait, c'est-à-dire que les individus vont se laisser aller beaucoup plus facilement, dit-on, en tout cas dans les commentaires, et insulter des femmes ou des hommes, des personnalités qui prennent des positions. Mais il y a aussi un autre phénomène qui nous inquiète aussi au plus haut point, c'est lorsque cette haine se mélange aux politiques, à des contextes politiques très tendus. Je vais donner l'exemple, par exemple, du génocide des Rohingyas, dont on parle beaucoup en ce moment, en Birmanie, pour lequel l'ONU et notamment le rapporteur spécial chargé de la prévention des génocides, qui expliquait que il y avait une inquiétude au regard des discours haineux, enfin de la diffusion en masse des discours et la viralité surtout de certains discours haineux de personnalités avec une grande visibilité dans des pays bien spécifiques. En l'occurrence, là en Birmanie, c'était un moine bouddhiste radical qui pendant des mois a partagé à des millions de personnes, à des millions de Birmans sur Facebook, des messages qui indiquaient ou suggéraient très fortement que la population musulmane, qui est la religion partagée par beaucoup de Rohingyas, que la population musulmane causait beaucoup de maux en Birmanie. Voilà. Et l'ONU a tiré l'alerte et s'interroge aujourd'hui pour savoir si la viralité, la diffusion en masse de ces discours haineux contre, cette fois non pas une personne, mais contre tout un groupe de population, a pu avoir un impact et pousser à des réactions, enfin à des massacres, comme on l'a vu il y a dernier mois. Autre exemple, au Sud-Soudan, il y a quelques mois, il y a eu une flambée de violence. Et il y a une ONG qui est spécialisée dans l'utilisation de la technologie pour la prévention des conflits et la paix dans le monde. Et ils ont fait des études statistiques qui montraient qu'il y avait une concomitance entre la diffusion sur les réseaux sociaux, et en particulier le plus grand d'entre eux qui est Facebook, la diffusion de messages visant une partie de la population et l'augmentation de violences ethniques et tribales dans le même temps.
Donc, il y a un impact en fait dans la vie réelle et dans les violences réelles.
Absolument. Et c'est pour ça que pour nous, l'aspect, le contexte politique peut aussi jouer un rôle dans la flambée de violences dans des pays qui ont des institutions et une situation, politique très volatile et très fragile.
Alors, la haine sur Internet, il en a été victime. Adrien, 35 ans, parisien et militant écologiste, fait des vidéos sur sa chaîne YouTube, une chaîne baptisée Adrien parle politique. Auprès de ses 500 abonnés, Adrien parle de sujets comme de la carte électorale ou d'autres sujets politiques, aussi du vélo en ville, jusqu'à cette vidéo qui a fait un bad buzz, comme on dit. Notre reporter Alice Milo l'a rencontré.
Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 plus gros diffuseurs français d'informations pas fiables, confuses, voire carrément complotistes ou mensongères. Place au classement.
Le 14 février 2017, je poste une vidéo qui fait exploser mes compteurs parce qu'elle parle en fait des 5 plus gros médias en ligne qui relaient des informations fausses.
Ou donc des, ce qu'on appelle les fake news.
Disons plutôt des sites qui manipulent l'information, qui diffusent carrément des mensonges ou alors de l'antisémitisme, du racisme, des soi-disant complots aussi complètement abracadabrantesques. Alors le plus gros, hein, c'est le site d'Alain Soral, qui s'appelle Égalité et Réconciliation, du nom aussi de son parti politique. Donc son fonds de commerce, Alain Soral, c'est entre autres l'antisémitisme via la négation de la Shoah. Ah, sur celle-là, la vidéo a dépassé les 43 000 vues. En fait, c'est en cours de journée, je me rends compte que l'audience augmente de manière inhabituelle, puisque alors que j'étais plutôt habitué à quelques centaines de vues, voire un petit millier ou deux en général, en une journée, je dépasse les 4 000, 5 000, 10 000. Donc là, oh, ok, il se passe quelque chose. Et donc je remarque très vite, vu les insultes qui commencent à fleurir, que la vidéo est relayée par Égalité et Réconciliation et que donc ça m'apporte des milliers de personnes, dont des dizaines et des dizaines et des dizaines de commentaires haineux et insultants.
On peut en lire quelques-uns ?
Alors on a Edmond Cuachier, donc c'est sûrement un faux nom, qui me dit « Staline faisait aussi ce genre de liste de ses opposants politiques pour ensuite les envoyer au goulag ou dans des hôpitaux psychiatriques. Continue comme ça mon ami, c'est du très bon boulot. » C'est sûrement ironique. Gros naze, t'as rien compris au système toi et tu y participes pleinement. Alors oui là aussi c'est soi-disant l'antisystème bien sûr. J'ai vu plus de charisme dans des flaques de vomi. Sympa. On est quasiment obligé de tous les lire, même pour les supprimer. Au début, ça m'a fait rire avant que je comprenne l'ampleur du flow qui m'est arrivé dessus. Alors, c'est assez violent. Bon, c'est quand même une cascade ininterrompue pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Dès qu'on regarde son téléphone, en fait, on voit les nouveaux commentaires. Et on a beau se dire qu'on s'en fout, ces gens-là, de toute façon, on les aime pas. Ça finit quand même par imprégner, quoi. À force de lire la même chose. T'es nul, t'es qu'une merde. On se demande si finalement tout comme la KM 40, 50, 120 fois la même chose, si c'est pas un petit peu vrai quoi. Là c'est bien soit d'arrêter de décrocher, soit en tout cas d'avoir des gens autour de soi parce que histoire de rassurer quoi. C'est sûrement moins violent que d'avoir une foule de 200 personnes qui hue contre nous sur une place de village, mais quand même il y a l'effet masse et c'est facile parce que pour chacune d'elles c'est 3 minutes, mais vous multipliez 3 minutes par 400, ça fait beaucoup de temps qui est consacré à démolir votre petite personne.
Vous avez douté ?
Ah oui, forcément, on se demande est-ce que c'était bien ? Est-ce que j'ai raison d'en parler ? J'ai cette chance d'être un homme, ce qui fait que la déferlante s'est arrêtée au bout de 3-4 jours et j'ai pas eu d'appel au viol, personne n'est venu taper à ma porte. Parce que d'après ce que je lis de témoignages de femmes à qui ça arrive, ça n'a jamais de fin en fait. Et ça m'a peut-être freiné, parce que j'ai fait une pause après cette vidéo, mais ça m'a pas non plus complètement stoppé.
Comment vous réagissez à ce témoignage d'Adrien, un youtubeur qui a été victime de cyberharcèlement, Thomas Huchon ?
Bah écoutez, moi je suis pas totalement surpris. Je lance d'ailleurs un petit message à Adrien s'il veut qu'on aille boire un café, qu'on discute de tout ça. Enfin, c'est des choses que
dès qu'on s'attaque à ce milieu-là,
quand on s'attaque, c'est compliqué. Alors, qu'on soit journaliste, qu'on soit youtubeur, qu'on soit une association, qu'on soit un simple citoyen, s'attaquer aux diffuseurs de haine sur Internet est une idée risquée. C'est pourtant un combat qu'il nous faut mener, et c'est probablement aussi l'une des raisons de comment dirais-je, de ce que vous disiez en début d'émission, c'est-à-dire de la surreprésentation de la haine par rapport au contenu vertueux sur Internet. Le problème, c'est que sur Internet, on n'est pas du tout des citoyens comme dans la vraie vie. Il expliquait dans son témoignage, s'il y avait 300 personnes qui l'insultaient sur une place, on interviendrait. Mmh. En tout cas, si quelqu'un rentrait dans le studio en cet instant présent et nous hurlait que la Terre est plate, que la Terre est plate, que la Terre est plate, et ben, au bout d'un moment, des gens lui diraient d'arrêter de crier. Peut-être même qu'on lui dirait que la Terre n'est pas plate et qu'on a des éléments. Et enfin, on lui demanderait gentiment de fermer sa gueule, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution.
Et peut-être qu'il ne le ferait pas.
Peut-être qu'il ne le ferait pas, mais pour l'indécis qui regarderait cette scène, eh bien, il verrait qu'il y a deux sons de cloche. Et pas qu'un seul. Et c'est aussi ça l'immense problème aujourd'hui. L'immense problème aujourd'hui de la haine sur Internet, c'est qu'elle n'est jamais contredite sur Internet. Et donc, comme elle n'est jamais contredite, les indécis qui arrivent sur ces pages, sur lesquelles vont circuler tout un tas de contenus absolument déments, eh ben, ils vont tomber dedans parce qu'ils sont pas contredits. Alors que dans la vraie vie, quand vous arrivez dans une discussion et qu'il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi, eh ben, vous avez quelqu'un d'autre pour le contredire. Donc, du coup, peut-être que si on peut faire passer un vrai message, une proposition, comme on en appelait au début de cette émission, eh bien, c'est d'être sur Internet, des citoyens entiers, de plein exercice de nos droits. Vous savez, on n'arrête pas de parler de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est un droit, on est tous d'accord. Mais c'est aussi un devoir. C'est le devoir d'être tenu comptable et responsable des propos que l'on va tenir. Et ça, eh bien, ça n'est pas uniquement la responsabilité des Français, c'est avant tout la responsabilité des plateformes Internet qui laissent des gens anonymement créer des comptes et qui ne vérifient pas leur identité. Mmh. Moi, ça fait bientôt 20 ans que je travaille sur Internet comme journaliste et j'ai été pendant très longtemps un partisan de la liberté sur Internet. Je ne le suis plus du tout, je suis pour un contrôle absolument total de ceux qui ont le droit de publier, bien entendu que certains ne pourront pas s'exprimer, tant pis, c'est le prix à payer pour un débat de qualité. Tout le monde n'a pas le droit de rentrer dans votre studio pour venir s'exprimer, c'est vous qui choisissez. Eh bien je crois que les citoyens aujourd'hui ont aussi le droit de choisir de dire que ceux qui ne veulent pas présenter leur identité n'ont tout simplement pas le droit de s'exprimer.
On reviendra sur les solutions aussi à proposer face à toute cette haine et ce déferlement de haine sur Internet. Philippe Cohen, on peut imaginer le traumatisme que ça peut représenter de lire de telles critiques sur soi, de telles
injures. Oui, et puis, on ne s'interroge pas assez sur savoir ce que toute cette hyper-haine, hyper-violence, hyper-harcèlement continuera de déclencher dans l'esprit de ceux qui sont aujourd'hui préadolescents ou adolescents. On sait bien que lorsqu'on est exposé à de l'hyperviolence, il y a un moment donné où ça blesse et surtout où ça déclenche des comportements. Donc aujourd'hui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Thomas Huchon lorsque vous disiez qu'il y a une responsabilité des plateformes, mais pas que les plateformes, il y a aussi ceux qui s'en servent, donc il y a une responsabilité duelle, on va dire. Et lorsque les plateformes n'invitent pas à l'engagement positif pour respecter l'autre, il y a effectivement tout un travail à faire. C'est pour ça qu'on essaye d'être créatif. Vous allez sûrement nous parler des lois qui sont là pour expliquer qu'il faut sanctionner, qu'il faut enlever vite. Mais ici, on est déjà sur l'après-coup. Vous parlez du traumatisme. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des lois qui disent qu'il faut enlever sous 36 heures ou 24 heures ou 4 heures ou 5 minutes. Mais c'est bien après que le mal soit fait. Donc notre travail à nous tous en tant que responsables de la société civile et en tant que simples citoyens, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le couteau ne touche pas.
Que cette haine ne s'exprime pas.
Et que cette haine ne soit pas lancée au sens où cela peut aussi faire l'objet d'un vrai engagement citoyen. Alors lorsque Thomas Huchon parlait aussi de la pseudonymisation, c'est-à-dire le fait que l'anonymat serait le responsable de... Alors, obligé à ne pas pouvoir être anonyme, ça pose des vrais soucis dans les pays qui ne sont pas des pays démocratiques. On sait que la majeure partie des pays du monde sont des théocraties, voire des dictatures, parfois. C'est comme ça que les Nations Unies sont composées. C'est un fait. Et donner la possibilité que ces États aient comme argument de dire, vous voyez, même dans le studio de RFI, on dit qu'il faut interdire le fait d'être pseudonymisé, c'est un vrai problème. Donc c'est pour ça qu'on dit, si par exemple vous êtes homosexuel, dans un pays qui fait moins que 4000 habitants, vous aurez peut-être envie, si vous voulez avoir une vie privée, d'être sous un pseudo. Et ça doit pouvoir être un droit. Et c'est pour ça que lorsqu'on travaille avec les plateformes, avec les fournisseurs d'accès, on leur dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas organiser que par défaut, il faille déclarer son identité et ensuite qu'il y ait des raisons valables d'être pseudonymisé. Je ne veux pas monopoliser la parole.
Thomas Huchon.
Je suis totalement d'accord sur la question des autres pays. On parlait de la question française et de la loi française. Et donc, effectivement, moi, pour la France, je suis pour une position très stricte là-dessus. Après, bien entendu qu'il y a des tas de pays dans lesquels la démocratie n'existe pas.
Sûr, et donc, RFI, avec la francophonie.
Oui, mais je ne vais pas prétendre disposer de solutions pour établir l'état
débat.
De droit dans des dictatures. Là, on parlait de la situation de la France. On avait un citoyen français qui publie en France et qui est pourchassé.
Et on va parler du complotisme en France.
Effectivement, je veux juste dire que, comme ce jeune homme, moi j'ai reçu des centaines et des centaines de messages de haine depuis 3 ans que je travaille à m'attaquer aux théories du complot. Monsieur Soral aussi, bien entendu, Dieudonné a appelé à la violence contre moi. Enfin, ils ont tous fait leur petit truc. 99% des messages qui m'étaient envoyés étaient envoyés par des gens qui étaient anonymes sur Internet et qui me demandaient si j'étais juif ou comment est-ce qu'ils allaient me crever. Donc, je crois qu'il y a un moment, le problème, il est là. On peut pas pas laisser ces gens-là s'exprimer de cette manière-là. Et surtout, on ne peut pas laisser une entreprise multinationale américaine qui ne paye pas ses impôts gagner beaucoup d'argent avec tout ça. Le problème, il est là aussi. C'est qu'ils gagnent énormément d'argent en laissant proliférer des comptes qui ne sont que des machines à haine. Donc, il y a un moment, il faut les mettre face à leurs responsabilités. Et moi, les mecs qui me vendent du cool avec leur suite à capuche, au bout d'un moment, ça commence à me fatiguer.
Alors, Thomas Huchon, justement, vous vous engagez contre le complotisme et vous avez vous-même créé une théorie du complot, inventée de toutes pièces, pour un documentaire « Comment nous avons piégé les complotistes » diffusé sur le site Spicy. On va en écouter un extrait.
Le virus du sida a été inventé par la CIA dans sa lutte contre Cuba. C'est la vraie raison du blocus économique et sanitaire de l'île depuis 50 ans. Et si Obama accepte aujourd'hui de lever l'embargo, c'est pour récupérer le vaccin que les Cubains ont développé en secret. Ce film, qui a été vu des milliers de fois sur Internet, c'est un mensonge. Une théorie du complot comme il en existe des milliers sur le web. Sauf que celle-là, c'est nous qui l'avons inventée de toutes pièces. Nous allons vous dire comment. Et surtout, nous allons vous dire pourquoi nous avons fait tout ça.
Théorie du complot. Récit explicatif concurrent de la version communément acceptée des faits. Thèse qui va placer en son cœur l'idée d'un complot sans jamais le prouver.
Voilà pourquoi nous nous sommes attaqués aux complotistes. Nous avons décidé de taper là où ça fait mal, en les prenant à leur propre piège.
Et d'en tirer pour nous une vertu pédagogique et citoyenne.
Nous avons donc nous-mêmes inventé un complot. Ce complot, nous en avons fait un film. Et ce film, nous l'avons mis sur Internet. Ensuite, nous l'avons diffusé grâce aux réseaux sociaux. Et durant toute cette période, nous avons mesuré en temps réel la propagation de ce message sur la toile. Cette méthode nous a permis de mieux comprendre la complosphère et aussi de montrer que certains avalent et relaient n'importe quelle information pourvu qu'elle aille dans leur sens.
Quelle était alors cette théorie que vous avez inventée, Thomas Huchon ?
Ben, en fait, l'idée à la base, c'était que nous, en tant que journalistes professionnels qui créions un média sur Internet, on voulait s'intéresser à nos voisins, justement, hein, nos voisins du web. Et on a découvert un monde un petit peu bizarre avec des gens qui racontaient vraiment n'importe quoi. Et donc, on s'est dit que la meilleure manière de tester leur capacité à nous réinformer, c'était d'inventer un mensonge et de voir s'ils allaient le percer à jour.
Il y a des vrais codes que vous avez utilisés pour cette vidéo.
Oui, alors effectivement, après, on a beaucoup travaillé à la fois sur l'univers du complotisme, sur les codes qui sont utilisés pour construire ces produits d'information, entre guillemets. Et effectivement, c'est un peu comme une recette de cuisine. Hein, donc vous avez une petite pincée de musique inquiétante, hein, une touche de voix intrigante, une cuillère à soupe de faits historiques, et là-dessus, tout un tas de choses qu'on ne va pouvoir ni démontrer, ni vérifier, ni contredire. Un récit complètement dingue, mais il faut du vrai. Hein, il y a quand même un peu de vrai. Il y a beaucoup de faux, il y a de l'improbable, de l'invérifiable. On mélange tout ça dans une mayonnaise, on récupère des infos volées sur Internet, des vidéos sur YouTube, on sort tout de son contexte, on détourne tout dans tous les sens, et à la fin, on arrive à un petit produit de 7 minutes 30 qui va être vu des milliers de fois sur Internet et qui va permettre de cibler tout un tas de sites de désinformation et de les identifier comme tels.
Et donc la vidéo qui raconte donc que la CIA a inventé le sida pour combattre Cuba, donc ce qui est faux, a été vue 10 000 fois sur YouTube en 3 semaines, partagée plus de 1 000 fois sur Facebook. Ça s'est répandu.
Ben oui, et surtout en fait, c'est un petit peu comme ce jeune homme qui a vu à un moment l'audience exploser sur sa vidéo YouTube. Et ben nous, on a vécu un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a au bout d'un moment été repris par des sites de désinformation qui avaient pignon sur rue. Et à ce moment-là, on explose complètement, la courbe est complètement dingue. Et donc on se rend compte que, en fait, on va être happé dans un monde de la désinformation où ce qu'on a fait est pas exactement ce qu'ils pensent, c'est pas exactement ce qu'ils croient, mais ça va dans le sens de ce qu'ils veulent défendre, et donc ils vont l'utiliser, ils vont s'en servir. Et donc ça crée une espèce de cercle, un cercle vertueux de vice, hein, qui va amener à la fin à des conséquences assez, assez graves en termes d'information.
Oui, je voulais, ce que vous dites est très intéressant sur finalement le mix qu'il y a entre les discours de haine sur Internet et ce qu'on appelle aujourd'hui communément, même si l'appellation ne nous convient pas du tout, qui est les fake news. Et ce qui fait la viralité, et ce que vous expliquez très bien, c'est effectivement l'utilisation de l'image, mais d'une image qui est là pour en fait tromper. Tout simplement, et susciter un sentiment, des sentiments
de colère,
comment dire, qui mobilise le cerveau reptilien que l'on a tous. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous avons observé aussi, encore une fois, sur la question de la haine plus globale, c'est que, oui, on va prendre une image, on va mettre, par exemple, dans le cas au Sri Lanka, c'est un très bon exemple aussi, et on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des coupures Internet et des solutions. Le Sri Lanka, ce qui avait, il y a eu des émeutes contre les musulmans début 2018. Et en fait, ça a été possible parce que il y a eu un partage massif d'images qui ont été prises dans un contexte complètement différent, qui n'avait rien à voir, qui montrait des musulmans, dit-on, qui étaient en train de massacrer des gens dans un village.
C'est le mensonge au service de la propagation de la haine.
Absolument. Et ça marche très bien parce que malheureusement, nos cerveaux sont équipés pour recevoir ce type d'informations et réagir avec violence. Donc oui, les solutions, on en parlera tout à l'heure, mais les solutions sont peut-être aussi du côté de du rétablissement de
la vérité. Les voisins, les voisines, si vous voulez témoigner, si vous avez été ciblé par des commentaires injurieux, sexistes ou racistes sur Internet, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Et d'ici là, vous restez avec nous. On va voir comment lutter contre cette tendance au lynchage et au complotisme sur Internet. Mais d'abord, Walk by the Ocean sur RFI, c'est signé General Electric.
Don't let darkness fall over me. Can't you tell? Can't you tell? Can't you tell I couldn't stand it? I was walking aimlessly, lost in thought, looking at my feet.
De voisins, on dissèque la haine sur Internet. Aujourd'hui avec nos invités, Philippe Cohen, juriste, fondateur de l'ONG Respect Zone, qui publie le livre Internet contre Internet aux éditions Le Bord de l'eau. Également avec nous, Julie Owono, directrice de l'ONG Internet sans frontières. Et Thomas Huchon, journaliste pour le site spicy.fr, engagé pour décrypter le complotisme sous toutes ses formes, complotisme qui prolifère sur la toile. Alors l'américaine Wendy Packer a fondé il y a 6 ans un blog, puis une page Facebook qui s'appelle La mode après 50 ans, engagée pour promouvoir le droit de s'habiller comme on le souhaite en dépit de son âge. Elle s'est vite retrouvée confrontée à un phénomène auquel elle ne s'attendait pas.
Je postais des photos de femmes comme vous et moi. J'encourageais les femmes à m'envoyer des photos d'elles pour que je les publie sur ma page Facebook. Mais j'ai vite découvert que cela me gâchait la journée. Je devais constamment vérifier que personne ne les insultait. Et si c'était le cas, immédiatement bannir de la page Facebook la personne qui l'avait insultée. Mais j'avais toujours peur que la femme tombe sur ses critiques, qu'elle les lise. Cela m'est arrivé au moins 7 ou 8 fois que des femmes dont j'ai publié les photos soient blessées par ce que les gens avaient écrit sur elles. Récemment, il y a eu cette mannequin de 63 ans. J'ai posté une photo d'elle sur laquelle elle pose presque nue, même si elle cache toutes ses parties intimes. Elle a de longs cheveux blancs, ce qui est très sexy. Et ces femmes, en commentaire, l'ont comme déchirée en lambeaux. Elles ont écrit par exemple « Elle a fait de la chirurgie esthétique, personne ne peut ressembler à ça, ce n'est pas normal. Elle ne devrait pas se montrer comme ça, c'est inacceptable. » Et moi, chaque jour, je devais vérifier 5 ou 6 fois sur la page que personne n'avait à nouveau insulté cette femme, alors que c'est courageux de sa part de partager cette photo avec les 250 000 personnes de ma communauté. Si je laisse passer une journée ou même 5 heures en oubliant d'aller regarder ma page, je peux retrouver 3 insultes dans les commentaires dès que je me reconnecte. Alors je me suis dit que ça n'était plus possible, que je ne pouvais plus continuer comme ça. Je n'avais plus de vie. Il faut que je puisse passer une journée sans avoir à vérifier Facebook toutes les 5 minutes.
Alors les femmes en particulier sont victimes de violences en ligne. On pense au cas de la journaliste et chroniqueuse sur Europe 1, Nadia Adam, deux jeunes hommes qui avaient diffusé des messages menaçants, des menaces de mort et de viol à son encontre, ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe Cohen ?
Mais effectivement, c'est très bien lorsque la justice passe. Mais elle passe quand ? Elle passe très très longtemps après. Elle passe si on arrive à appréhender les auteurs, ce qui est parfois extrêmement difficile, ce qui rejoint le problème de l'anonymat. On ne peut pas toujours appréhender quelqu'un qui est très bien caché. Il y a également un coût à la justice, c'est un peu compliqué. Et puis tout le monde n'a pas donc les moyens de pouvoir attendre. Donc il faut le faire. C'est très important qu'il y ait un moment donné où on dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Notre travail, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut anticiper les meilleurs comportements pour le vivre ensemble avec nos 7 milliards de voisins. Et notre approche, ça consiste aussi à faire en sorte que les gens puissent s'engager sur une communauté donnée. C'est-à-dire que c'est une expérience que nous faisons avec les jeux vidéo. Par exemple, où il est très difficile d'être une jeune femme. Parce que si vous êtes une gameuse, on va vite vous ségréguer et vous faire comprendre que vous n'êtes pas la bienvenue. Et ce qu'a vécu Nadia Adam, c'est vécu au quintuple ou au centuple si vous êtes une gameuse. Parce que vous ne pouvez pas pratiquer votre passion sous votre genre affirmé. Vous êtes obligé de vous transformer et de changer de genre pour être accepté sur une communauté, surtout si vous faites du e-sport. Parce qu'avec le e-sport, le problème, c'est que vous devez devenir dans l'arène même, physiquement. Ce n'est pas juste en ligne. Et ce qu'on fait avec différents éditeurs de jeux et avec des équipes, c'est de pouvoir organiser des parties sous égide de l'engagement positif, respect zone. C'est-à-dire qu'on dit, si jamais vous voulez jouer sur telle partie, sur tel jeu, faites-le, mais avec comme savoir, à l'avance, le fait que c'est une partie qui va correspondre à de l'engagement avec du respect pour les uns et les autres, sur la manière d'échanger. On ne parle pas du contenu du jeu, on parle des échanges entre joueurs. Et donc c'est exactement pareil avec les réseaux sociaux.
Il faut poser un certain cadre, certaines règles.
Un cadre, et puis dire, ici, on est en droit de pouvoir déconstruire la haine et construire des zones respectueuses. Donc si on est sur une communauté d'amis, ou lorsqu'on est amis, on s'engage et on labellise, par exemple, sa photo de profil, on est sur un espace où le respect fait du sens. Eh bien, c'est extrêmement difficile ensuite pour les témoins passifs de rester passifs. Parce que lorsque vous affichez les valeurs d'un espace public, c'est un peu comme ce que disait Thomas Huchon lorsque vous disiez s'il y a quelqu'un qui rentre dans le studio ici, c'est évident que c'est une zone qui est périmétrée. Et donc, il aura beaucoup de mal à avoir un comportement qui est un comportement caché, violent, etc. Lorsque les règles du jeu sont exprimées, c'est beaucoup plus facile de pouvoir les invoquer. C'est un peu comme si on disait, tiens, on va transformer le boulevard périphérique qui tourne autour des grandes villes et on va enlever les panneaux. C'est sûr que ça va être compliqué en termes de vitesse, en termes d'accident, en termes de comportement. Par contre, si vous mettez, comme c'est le cas autour de Paris, un panneau chaque 30 mètres qui vous donne les règles du jeu, avec une limite donnée, on s'aperçoit au fil des ans que les limites, elles sont respectées.
Julie Ouenot.
Oui, sur la question des femmes, je pense que malheureusement, Internet, là, redevient vraiment le miroir exact de notre réalité. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde extrêmement sexiste, extrêmement machiste même parfois. Et donc, les femmes sont de fait... en raison de la perception déjà d'elles dans le monde réel, entre guillemets, elles sont de fait plus victimes de cette haine qui va s'exprimer encore plus facilement. Et l'exemple intéressant que je trouve, c'est l'exemple de cette journaliste, de ces journalistes femmes qui font des articles sur, comment il s'appelle, le monsieur de SpaceX. J'ai oublié son nom.
Tesla.
Merci.
Elon Musk,
merci. Les journalistes femmes qui reportent sur Elon Musk, même sans critiquer, juste en posant des questions sur la gestion de l'argent public, parfois qu'il a reçu pour développer ses projets entrepreneuriaux et d'innovation, eh bien ces femmes sont victimes systématiquement, simplement parce qu'elles ont posé des questions, hein, c'est-à-dire sans même insulter ou quoi, juste parce qu'elles ont posé des questions, elles sont systématiquement victimes de trolls, et pas seulement des trolls anonymes, mais aussi d'hommes qui vont venir les critiquer.
Avec des remarques notamment sur leur physique, hein. On a aussi des youtubeuses à qui on écrit « mais tu ne pourrais pas faire tes vidéos en voix off pour qu'on ne voit plus ta tête ».
Voilà. Typiquement, c'est comme si... une femme qui fait du journalisme, il faudrait qu'elle soit plastiquement intéressante pour pouvoir s'exprimer. Alors que les hommes, encore une fois, qui reportent sur ce même sujet, ne reçoivent, et vous le disiez tout à l'heure, soit pas du tout, soit très peu, ou beaucoup moins de haine de ce point de vue-là.
Alors justement, on a une voisine qui nous appelle sur ce sujet. Néola, bonjour Néola.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Voilà, moi j'ai créé une page Facebook anonyme. Parce que sur ma page Facebook que j'avais créée avec mes photos, quand je postais une photo, on me traitait toujours de grosse parce que j'ai pris beaucoup de poids en moins de 2 ans. Donc on me disait toujours « t'es trop grosse, t'es devenue vilaine ». Bon, arrête de publier tes photos. Ou bien on m'écrivait en inbox pour me dire que vraiment j'ai trop grossi, il faut que t'arrêtes de grossir parce que t'es devenue moche.
Et c'était des personnes que vous connaissiez qui vous écrivaient ça ou des inconnus?
Oui, oui. Des personnes que je connais.
Et qui vous écrivez cela sur les réseaux sociaux. Alors donc maintenant, vous ne mettez plus de photos sur votre page Facebook.
J'ai carrément arrêté d'être active sur cette page Facebook et j'ai créé une autre page Facebook anonyme. Où je ne connais personne, je ne mets pas de photos. Je suis dans l'anonymat.
Merci Néola pour ce témoignage.
C'est vraiment terrible cette auto-censure en fait. C'est ça qui fait mal. C'est que on est une femme, on peut plus avoir la liberté de s'exprimer quand on veut. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important. Est-ce que je crois que c'est vous, Monsieur Huchon, qui disiez ça tout à l'heure. C'est important que la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté d'expression, mais sans faire du mal à l'autre, puisse reprendre le contrôle. Et je pense notamment à des mouvements comme MeToo, même si ça n'a pas directement à voir, mais que des femmes puissent reprendre, réinverser la tendance, qu'on ne voit pas que ceux qui viennent, qui sont une minorité finalement et qui causent autant de mal, mais qu'il y ait une vraie solidarité de toutes les femmes et de tous les hommes aussi, bien sûr, pour reprendre, réinverser la tendance et refaire en sorte.
Y compris sur les réseaux sociaux,
et que ces réseaux sociaux deviennent vraiment des endroits où on connecte les gens au lieu de les séparer.
Thomas Huchon.
Mais écoutez, j'ai un petit peu l'impression que pour comprendre les problèmes, il faut revenir à leur origine. Hein, on n'arrête pas de parler d'un réseau social qui s'appelle Facebook. Qu'est-ce que c'est à l'origine Facebook? Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un mec à 19 ans, qui est à l'université, qui n'arrive absolument à draguer aucune meuf, et qui va faire une plateforme web pour humilier les filles qui ne veulent pas sortir avec lui. Ok, c'est ça Facebook. Donc, qu'on soit surpris 15 ans après que cette plateforme était le moyen de proliférer de la haine, et notamment de la haine sexiste, ça a été créé par quelqu'un qui l'a fait pour cet objectif-là, à l'origine. Quand Zuckerberg a 19 ans, il crée une plateforme qui permet de noter les filles en fonction de leur physique dans son université, parce que les filles ne veulent pas sortir avec lui. Donc, Je comprends très bien qu'on soit surpris de tout ça aujourd'hui, bien entendu. Mais je pense qu'on est complètement à côté de la plaque.
Mais c'est pas que Facebook, ceci dit. Twitter aussi. Mais,
bien entendu. Mais les autres réseaux sociaux ont été conçus sur les mêmes bases par des jeunes hommes qui ont exactement la même sociologie. Ce sont systématiquement des jeunes hommes qui sont blancs et qui ont une vision des femmes qui est terrifiante. mais terrifiantes quand on les entend parler.
Faire du complotisme.
Mais non, mais c'est une réalité.
À rebours, attention.
Ben non, mais
alors, par rapport aux réseaux sociaux.
Qui sont les patrons de ces boîtes? Est-ce qu'il y a une seule femme dans les patrons des GAFA? Est-ce qu'il y en a une? Non.
Alors, moi, je tiens à dire que ce qui a été dit par cette auditrice, je trouve, est très intéressant aussi. Pourquoi ? Parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a énormément souffert sur un délit qui n'est prévu par à peu près aucun texte dans le monde entier, c'est la morphophobie. Et donc, ce qui montre bien que les usages font que jamais un texte de loi sera assez moderne, complet, etc., pour suivre les évolutions des tendances et de ce qui fait mal. Vous parlez du traumatisme. Donc, en complément des textes du droit dur, ce que l'on propose, c'est de faire des engagements sur le droit souple. Lorsque vous rentrez dans une école qui va rentrer dans un programme avec de l'engagement positif. Donc aujourd'hui, il y a 45 écoles en France, Belgique, il y en a une au Maroc, il y en a aux États-Unis et en Angleterre qui rentrent dans un programme Respect Zone. Donc elles rentrent avec une idée que lorsque les élèves y rentrent à l'école en septembre, ils signent une charte de 4 paragraphes qui peut être comprise à partir de l'âge de 8 ans, qui a été traduite en 26 langues, dont le latin, le ch'ti et le breton d'ailleurs, par des classes. Et lorsque vous êtes engagé, lorsque sur votre carte étudiante, vous avez un logo qui vous rappelle un peu votre contrat, votre engagement, c'est beaucoup plus facile d'aller expliquer à la communauté concernée que lorsqu'il y a des vrais écarts de langage, y compris ceux qui font mal, y compris ceux qui poussent à du suicide, eh bien on peut réagir de manière immédiate, sans attendre que la justice ou que le signalement se fasse. Donc ce sont des compléments, c'est pas l'un ou l'autre. Et notre espoir, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on est très content d'être ici, c'est de pouvoir porter ces idées-là pour être entendus, y compris par les réseaux sociaux. Et juste un autre point sur les hommes et les femmes de médias. On a fait tourner un compteur à partir du 3 mai dernier. 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Et donc, on a fait un site qui est encore en ligne, c'est un mini-site, qui s'appelle stoppresshaters.org, où on a simplement compté sur 200 journalistes francophones qui ont une carte de presse, le nombre d'insultes, on a mis 200 insultes, qui surgissent sur les réseaux sociaux. On en est à 15 000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut faire le travail de l'information, qui est un peu le ciment de notre démocratie, eh bien, nous sommes exposés, si on est un journaliste, il y en a deux dans le studio, à être harcelés, lynchés, menacé de mort avec ses enfants, et on rejoint le procès récent de Nadia Dam.
Puisqu'on s'expose publiquement. Alors, on parle des GAFA, hein, des géants du web, et vous interrogez dans votre livre aussi cet aspect-là, Philippe Cohen, en disant neutralité du net ou net déni de responsabilité. Et en effet, comment faire plier Facebook, Twitter, etc. pour les forcer à supprimer les contenus rapidement ou après un signalement ou supprimer les contenus.
Travailler sur plus de prévention et intégrer dans les outils de communication entre les êtres humains, donc pas 7 milliards mais quand même 3 pour un des réseaux sociaux, l'idée que le respect soit la base de la communication humaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça n'est pas intégré. On a pensé à la pub. Alors, le droit à avoir de la pub, il est fort. On a pensé à la privacy, c'est-à-dire aux données personnelles, RGPD, etc. Ça commence à être à peu près géré. On a pensé à la cybersécurité. Donc, c'est vrai qu'il y a, c'est compliqué de se faire avoir avec ces moyens de paiement. Par contre, l'aspect respect humain a été complètement oublié, y compris pour les raisons que Thomas Huchon et Julie ont donc évoquées. Et donc, notre travail, c'est de créer de l'engagement collectif, y compris avec les médias, lorsqu'ils sont interactifs. C'est vrai que si on est tout seul avec quelques associations à vouloir élever le débat, on aura du mal à convaincre la Silicon Valley. Par contre, si l'ensemble des médias dans les zones qui sont couvertes par RFI peuvent créer de l'engagement, on pourra être entendu parce qu'il y a une vraie écoute pour les projets démocratiques.
Julie Ouno.
Oui, sur les GAFA. Alors, Il y a un autre problème qui est avec eux, et je crois que c'est vraiment la notion de transparence. Elles sont ces entreprises sont extrêmement peu transparentes. Transparentes sur quoi ? Sur, d'une part, les modalités de modération qu'elles mettent en œuvre, parce qu'elles disent lutter contre tous ces discours et contre tous ces fléaux sur leur plateforme, mais elles sont très peu transparentes sur en gros, comment elles prennent les décisions, en fait. Comment est-ce qu'elles décident de laisser telle page qui, pendant des mois, va inciter à la haine contre un individu ou contre un groupe, alors qu'elles vont supprimer des dessins d'une peinture, par exemple. Donc, beaucoup plus de transparence, d'une part, et ne pas s'appuyer que sur des algorithmes, parce que les algorithmes ne connaissent pas le contexte. Un algorithme va avoir un sein, bah, un sein, c'est un sein. Si on lui dit que le sein, c'est pas bien, bah, il va l'enlever. Pas que s'appuyer sur l'intelligence artificielle, mais s'appuyer aussi beaucoup. Et ça, c'est le plaidoyer qu'on fait en ce moment, c'est de leur dire, vous n'avez pas la science infuse, vous allez de plus en plus être responsable, que vous le vouliez ou non, soit de la mort d'individus, soit de mort à plus grande échelle, dans des contextes politiques, encore une fois, qui sont très volatiles et très fragiles. L'exemple du Rohingyas, mais en ce moment, il y a un autre pays qui attire beaucoup d'attention, qui est le Cameroun, en Afrique centrale, où effectivement, le réseau social, et en particulier le plus connu d'entre eux, Facebook, sert de vecteur et alimente un conflit qui existe, et vire même à des haines interethniques.
Voilà. La crise anglophone.
Au regard de la crise anglophone qui dure depuis 2 ans maintenant. Donc, nous, ce qu'on leur dit à ces plateformes, c'est que vous ne connaissez pas le contexte, vous avez besoin de diversité dans vos équipes, mais pas nécessairement dans vos équipes, dans les gens qui sont chargés de faire de la modération du contenu sur les plateformes. En Birmanie, on n'a jamais su combien ils avaient mis de modérateurs pour surveiller ce qui se passer. Pourtant, ils ont investi beaucoup d'argent. Facebook a investi énormément d'argent pour promouvoir son application Facebook Free Basics, qui est une application qui vous donne accès gratuitement à Internet. Mais en fait, Internet, c'est Facebook, hein, essentiellement. Et cette application était possédée par, je crois, plus de 70% de la population connectée birmane. Donc forcément, toute la journée, vous avez des informations Facebook. Si sur Facebook, toute la journée, vous voyez circuler des contenus viraux qui vous disent que les musulmans sont méchants, au bout d'un moment, et qu'en plus c'est une population avec un niveau d'éducation pas nécessairement élevé, forcément il y a des conséquences négatives. Donc nous, ce qu'on leur dit, c'est que vous ne connaissez pas les contextes, vous avez besoin de beaucoup plus d'humains, vous avez besoin de sociétés civiles comme nous qui connaissons le contexte, ou comme d'autres, ou même des organismes qui travaillent sur les questions humanitaires, et beaucoup plus de rapports et d'alerte. Et dernière chose, et là je m'adresse plus seulement aux GAFA, mais aussi aux États, beaucoup d'États vont... se lancer dans soit l'adoption de lois de circonstances, donc pour lutter contre les fake news par exemple, ou alors vont carrément couper Internet. Mais sauf que c'est complètement stupide, parce que ça envenime encore plus le problème. Quand il n'y a pas Internet, les gens ils paniquent, et quand ils recouvrent la connectivité, bah, la panique s'exprime, notamment à travers des discours violents, ou alors voilà. Donc nous, le message qu'on passe, c'est non seulement au gouvernement, ça sert à rien de couper Internet, c'est contre-productif. Et aux plateformes de contenu comme Facebook, Twitter ou YouTube, soyez un peu humbles et essayez de diversifier un petit peu vos équipes. Ne vous appuyez pas que sur l'algorithme, parce que l'algorithme, c'est pas tout. Appuyez-vous aussi sur l'intelligence humaine.
Voilà. Thomas Huchon, le mot de la fin, on arrive à la fin de cette émission.
Que faire contre les GAFA? Moi, j'aimerais. Je pense qu'il y a une solution qui est assez simple. Hein. En fait, quand une entreprise ne paye pas ses impôts, ni ne respecte pas la loi d'un pays, je crois qu'il faut pas qu'elle ait le droit d'exercer dans ce pays. Donc, tant que ces entreprises n'auront pas décidé de respecter le droit français, je ne vois pas pourquoi elles auraient le droit d'exercer dans notre pays. Donc, j'en appelle aux dirigeants de mon pays pour faire respecter la loi. Tout simplement, je pense que si Total ne payait pas ses impôts en France et ne respectait pas la loi française, ils auraient fermé... Française.
Pas beaucoup.
Française.
Pas beaucoup.
Ouais, mais ils en payent quand même une partie. Et je pense qu'il y a tout un tas d'entreprises là-dessus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la volonté de laisser les plateformes s'autoréguler, c'est une immense erreur.
Ça ne marchera pas.
Essayons sur les routes, on va voir comment ça.